Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à toutes et à tous. La guerre en Ukraine leur a donné une visibilité inédite. Elle a surtout confirmé leur immense potentiel militaire, les drones. C'est avec les drones iraniens Shahed, notamment, que la Russie a lancé ses frappes massives contre le réseau électrique ukrainien. C'est avec l'aide des drones turcs Bayraktar que les attaques ukrainiennes ont visé des raffineries sur le sol russe. En Ukraine, les combattants, mais aussi les habitants, ont appris à vivre avec ces engins volants destructeurs à la sonorité si particulière. Correspondance à Kiev de Pierre Alonso.
C'est un bruit que les Ukrainiens ont appris à reconnaître et à détester. Un bruit de tondeuse à gazon qui précède une explosion. Les habitants de Kharkiv l'entendent beaucoup en ce moment. Ce sont des drones Shahed, des engins kamikazes de conception iranienne que la Russie tire sur les grandes villes d'Ukraine presque tous les jours. Avec leurs 50 kg d'explosifs, ils provoquent des dégâts moins importants que les missiles balistiques. Leur vitesse réduite, environ 200 km/h, les rend plus faciles à abattre que les missiles de croisière. Mais les Shahed peuvent voler plusieurs centaines de kilomètres et ne coûtent que quelques dizaines de milliers de dollars à produire. C'est donc une arme très rentable pour Moscou. En réaction, l'Ukraine a développé son propre arsenal, des drones aériens d'une portée de 300, 500 et même plus de 1000 kilomètres. On l'a vu ces dernières semaines avec les frappes contre les raffineries russes, parfois très loin de la frontière. Dans la mer Noire, les forces ukrainiennes ont décimé la flotte russe avec des drones navals très innovants, les Magoura, Marichka et Sea Baby. Sur la ligne de front, les drones dits FPV règnent en maître. Pilotés à distance avec un casque sur les yeux, ces petits engins artisanaux qui explosent à l'impact sont très précis, redoutablement efficaces contre des blindés ou des soldats cachés dans une tranchée. Côté ukrainien, ils compensent en partie les pénuries d'obus. Les soldats connaissent tous le son caractéristique des FPV. Un bruit aigu qui ressemble à un cri d'enfant, nous disait récemment un soldat, blessé sur le front par un drone FPV.
Et pour les Ukrainiens, le drone Bayraktar TB2 est une arme incontournable de ce conflit. Un drone low cost qui a réussi à s'imposer aussi comme un outil géopolitique pour le pouvoir turc. Véritable succès de l'industrie de défense, il est utilisé par le pouvoir du Premier ministre Erdogan comme outil de propagande et signe de puissance de la nation. Un véritable tour de force. Ce drone militaire a même réussi à s'imposer dans la pop culture locale avec des morceaux de musique qui lui sont dédiés à Nandlauer.
Il n'aurait pas rêvé meilleure publicité. Une semaine après le début de l'invasion russe, les forces ukrainiennes publient un clip vidéo à la gloire d'un héros de 650 kg et 12 mètres d'envergure, le Bayraktar TB2. Un drone que les armées de Kiev utilisent pour bombarder les convois militaires russes et qui a même aidé à couler le Moskva, le navire amiral de la flotte russe en mer Noire. Bayraktar. Ce drone est turc, sorti des lignes de production de Baykar Makina, entreprise en pleine expansion, symbole des ambitions de l'industrie de défense turque. Ses recettes sur un an ont bondi de 94%, un record. Bayraktar. Bayraktar. Si les affaires marchent si bien pour l'entreprise Baykar, dont le directeur technique Selçuk Bayraktar est le gendre du président turc Erdogan, c'est que les TB2 sont un vrai succès à l'export. Une trentaine de pays ont signé des contrats, dont une vingtaine ont déjà été livrés, y compris à des alliés de l'OTAN comme la Pologne ou l'Albanie, ou en Afrique, de la Somalie au Mali, de l'Éthiopie au Burkina Faso. Sine Oskar Shahin, consultante sécurité et défense, détaille les raisons de ce succès.
Non seulement il est moins cher que ses concurrents, mais il est efficace, donc le rapport qualité-prix est très intéressant pour les potentiels acheteurs. Il a fait ses preuves sur des terrains très différents, de la Libye à l'Ukraine en passant par le Haut-Karabakh. Dernier élément, et non des moindres, la Turquie se montre particulièrement présente par rapport à ses concurrents dans ce qu'on pourrait appeler le service après-vente et le partage de technologies avec les pays acheteurs.
Le drone de combat TB2, son successeur le TB3 et ses cousins plus plus ambitieux, la Kınjıl, Kızıl Elma, sont la vitrine d'un objectif de plus de 50 ans dont Recep Tayyip Erdoğan a fait une priorité, l'autonomisation stratégique de l'industrie de défense turque, avant tout pour fournir ses propres forces armées. Le pays est encore loin d'être autosuffisant, mais pour ce qui est des drones, c'est déjà le cas. La Turquie mène aussi ce que les experts appellent une diplomatie du drone. Les contrats à l'export servent à renforcer les liens avec des pays amis ou avec lesquels Ankara s'est récemment réconcilié. Et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de productions conjointes, comme c'est le cas avec l'Ukraine, l'Azerbaïdjan et même plus récemment l'Arabie Saoudite. Pour le pouvoir turc, les drones de combat sont aussi un outil de propagande sur la scène intérieure. Lors des campagnes électorales et chaque année lors du Technofest, le grand salon de l'armement organisé par l'entreprise Baykar. Les fleurons de l'industrie y présentent leur dernier modèle à des centaines de milliers de visiteurs. L'événement a beaucoup de succès auprès de la jeunesse. Mücahit, 21 ans, s'est rendu l'an dernier au Technofest d'Istanbul en pleine campagne électorale pour la présidentielle. Au cours de cette campagne, le pouvoir a prétendu que Kemal Kılıçdaroğlu, le candidat de l'opposition face à Recep Tayyip Erdoğan, donnerait un coup d'arrêt au projet de développement des drones en cas de victoire dans les urnes. L'opposition n'a rien dit de tel, mais Mücahit y a cru.
Je n'ai jamais entendu l'opposition dire qu'elle allait continuer à soutenir les projets de drones si elle était élue. Je crois même que Kılıçdaroğlu avait menacé de toucher aux drones. Mais qui sont-ils pour dire ça? Investir dans les drones, ça veut dire augmenter notre indépendance nationale. Ça veut dire être capable d'imposer nos positions sur la scène mondiale.
Des ambitions d'indépendance dont les drones de combat ne sont pas loin de là les seuls instruments, mais auxquels ils contribuent. Ces quatre dernières années, les importations turques d'armement ont baissé d'environ un tiers. Le pays affirme produire aujourd'hui 80% des besoins de sa défense nationale, contre 20% il y a 20 ans.
Et dans cette course aux armements et aux nouveaux drones, comment s'en sort l'Europe? Voilà 10 ans qu'un projet d'eurodrone géant a été lancé et il n'a toujours pas vu le jour. D'autres acteurs industriels se lancent dans la production d'engins de plus petite taille. Franck Alexandre, vous êtes le spécialiste des questions de défense sur RFI. On peut déjà dire qu'en matière de drones, tous les modèles sont permis.
Effectivement, ailes volantes ou multicoptères, la gamme est presque infinie. Il en existe pour chaque mission. Alors ça va des nanodrones pour la surveillance d'un environnement immédiat jusqu'aux drones mâles, moyenne altitude, longue endurance, à l'instar du Bayraktar que vous avez présenté. Et l'autre révolution de la guerre d'Ukraine, Frédéric, eh bien c'est les drones suicides. Du simple quadricoptère acheté dans le civil, capable de lâcher une grenade à fusil sur les tranchées adverses, jusqu'aux ailes fixes, capables de porter elle des charges de plusieurs kilos sur des distances de plusieurs centaines de kilomètres. Le drone dans la guerre, c'est désormais du consommable de masse. Les forces russes ou ukrainiennes, pour vous donner un exemple, en utilisent plusieurs milliers par mois.
Et quelle est l'ampleur de la fabrication de drones en Europe? On peut dire que l'histoire de cette fabrication commence par un échec, celui de l'Eurodrone.
Oui, un demi-échec en tout cas. L'Eurodrone, c'est une énorme bête de combat taillée pour la haute altitude, la longue endurance, avec ses deux moteurs. Rendez-vous compte, Frédéric, ça fait presque 10 ans que le projet de drone européen a été dévoilé. Trop cher, trop complexe. Le programme a dû être revu, corrigé avant que les États participants, France, Allemagne, Italie, Espagne acceptent enfin de s'engager. Il sera opérationnel à la fin de la décennie et il aura, craignent les observateurs, presque une guerre de retard.
Mais en attendant ce vaste projet, on peut dire que beaucoup d'industriels européens se sont déjà lancés dans la production de drones.
Effectivement, c'est l'antithèse de l'Eurodrone. En juin dernier, il fallait voir dans les allées du Salon du Bourget les industriels, mais surtout les PME, proposer des drones simples, éprouvés et répondant aux 3 impératifs exigés par l'Ukraine, c'est-à-dire une production en grand nombre, rapide et surtout capable de franchir des bulles de brouillage. Voilà, vous l'avez compris, l'univers du drone armé bouge vite et très vite.
Merci beaucoup, Franck Alexandre. C'est un petit bijou farfelu dans l'univers des séries télévisées. La série Parlement a élu domicile au Parlement européen, justement. Ses grandes baies vitrées, ses ascenseurs transparents et ses couloirs qui semblent ne mener nulle part, on y suit les aventures décalées d'un assistant parlementaire, Samy Cantor, alias l'acteur Xavier Lacaille. En pleine campagne pour les prochaines élections européennes, le tournage de la saison 4, c'est en ce moment à Strasbourg. Juliette Garbrand a suivi une équipe qui connaît tout des arcanes de l'UE sans jamais se prendre trop au sérieux.
Allez, on y va.
Allez, en place, silence s'il vous plaît.
Et action.
Alors, pour ce qui est du Kyrgyzstan.
Assis sur les bancs de l'hémicycle, deux rangs derrière un député enthousiaste mais un peu approximatif, notre héros Samy joue sur son ordinateur.
Qu'est-ce qu'on vient de tourner ? On a tourné une scène de l'épisode 8 de la saison 4, une scène un peu de comédie où Samy s'ennuie.
La dérision est bien toujours au cœur de la série Parlement. Sur le plateau, concentré et décontracté, l'acteur Xavier Lacaille arbore toujours son désarmant sourire. Il incarne Samy, assistant parlementaire puis conseiller politique, depuis 4 ans.
C'est un récit d'apprentissage qui est celui d'un jeune homme qui aurait pu faire autre chose que ça. Il apprend à travailler au sens avec un grand T, enfin, c'est con de dire ça, mais le Parlement, et plus généralement, mais le Parlement en particulier, c'est l'art du compromis. Et il apprend à aimer le compromis. Comment est-ce que le compromis vient enrichir, comment est-ce qu'on additionne vraiment les choses pour que ce soit encore plus beau. Et non pas, on a dû faire un compromis parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Je pense qu'il apprend que le compromis, ça peut être quelque chose de très fort et une véritable addition, quoi.
Le rôle essentiel du compromis est la fabrique des lois européennes. Nous aussi, spectateurs, les découvrons à travers le regard de Samy. Mais Parlement, c'est avant tout une comédie, insiste Pierre Dorac, réalisateur et co-scénariste.
Nous, vraiment, on a un refus total de la pédagogie. Le spectateur, il n'est pas venu pour qu'on lui fasse un cours de droit européen. Et clairement, notre ambition, c'est vraiment de faire un récit et de le faire rire. Une caractéristique vraiment centrale, c'est que l'Europe, c'est compliqué. L'Europe, c'est compliqué, les gens ne comprennent pas très bien comment ça fonctionne. Et plutôt que d'aller contre ça en faisant comme ça des grands moments où on devrait expliquer aux gens comment ça fonctionne, on va plutôt essayer d'exploiter cette difficulté pour en faire de la comédie. Parce que dès qu'on ne comprend pas, en fait, ça, c'est intéressant.
Vas-y, Elina, tu peux te lever et partir vers eux, s'il te plaît.
Même si dans une fiction, toute ressemblance avec des personnages existants est fortuite, ce qui fait la force de la série, c'est qu'elle est très bien documentée et crédible. Ces auteurs ont eux-mêmes travaillé au Parlement. D'ailleurs, les députés dans leur ensemble apprécient. Certains ont même fait de brèves apparitions dans les épisodes précédents. Et ce jour-là, à Strasbourg, l'équipe reçoit la visite de la conservatrice Anne Sanders qui se glisse sur le plateau.
C'est important parce que c'est une bonne accroche pour intéresser le grand public à ce qui se passe au Parlement européen. C'est vrai qu'au début, l'administration était assez frileuse. On n'a pas l'habitude de s'ouvrir. Et donc, moi, j'étais très favorable, même si, effectivement, c'est de la caricature, même si c'est des sujets drôles.
Et ça dépeint correctement, selon vous, les mécanismes.
Alors oui, ça permet de comprendre la dynamique parlementaire et je trouve que c'est assez fidèle sur l'organisation des travaux du Parlement. Après, sur les personnages, c'est de la caricature, mais on retrouve de temps en temps des traits qui font penser à l'un ou l'autre collègue. Pas à soi-même, évidemment.
Je te donne un top, Audi.
Après le Parlement, puis la Commission en saison 3, la saison 4 nous conduit au cœur du réacteur européen, le Conseil, où Samy va découvrir les rouages de la diplomatie des 27 autour d'un texte sur la transition écologique. Là encore, le tournage s'est fait sur les lieux mêmes de l'institution et c'était essentiel, explique Pierre Dorac.
On tourne à la fois pendant un vrai conseil, parce qu'il faut voir ce que c'est un sommet européen, c'est peut-être 1000 journalistes qui suivent. Nous, on ne peut pas recréer une salle avec 1000 journalistes qui sont en train de couvrir un sommet européen. Et puis, on va tourner aussi hors sommet pendant quelques jours. Et là, pour le conseil, clairement, il y avait des impératifs de sécurité qui sont très importants. Ils reçoivent des chefs d'État et de gouvernement. Et je veux dire qu'eux aussi, ils ont été très ouverts pour nous laisser tourner dans des lieux qui sont iconiques. Et en partie, je pense que c'est un peu le rôle de la série, c'est que finalement, si je vous parle de la Maison Blanche, du président des États-Unis, quelque part, vous avez une carte mentale de cet environnement-là. Vous avez vu 1000 séries, 1000 films où, en fait, vous vous êtes promené dans les couloirs du Sénat américain. Et ce que ça fait, c'est que vous êtes en mesure de vous raconter une histoire politique dans le système américain. En fait, vous êtes en mesure de vous dire, tiens, au fond, voilà, comment ça marche quand il y a une loi à faire passer. Et au niveau européen, c'est pas du tout le cas. Les bâtiments européens, très souvent, vous les avez très peu vus. Et par ailleurs, les gens ont une vision très, finalement, superficielle de ce que peut être un commissaire, de ce que peut être un député européen, parce qu'on ne leur a pas montré. Et donc, c'est important pour ça de montrer les bâtiments, de dire, voilà, regardez, ça, c'est le Conseil, et ça ressemble à ça.
Coupé, merci. À la déjeuner, c'est une pause de
la journée. Direction la cantine, une cantine dont les spécialités locales ne seront bientôt plus qu'un souvenir pour Xavier Lacaille. Les auteurs de la série l'ont annoncé, la saison 4 de Parlement sera la dernière.
C'est toujours une question qui est très difficile et je crois que c'est toujours bien de choisir quand on décide de conclure narrativement et de ne pas se laisser avaler par la série et les personnages quand on est pour les créateurs. Je trouve ça beau de pouvoir décider d'arrêter.
En attendant la diffusion de cette dernière saison, l'automne prochain, les trois premières sont toujours visibles sur le site de France Télévisions. Un divertissement d'actualité à quelques mois des élections européennes.
Il faut qu'on sorte de notre petit confort de parlementaire.
Merci.
Et pour terminer l'émission, on va décortiquer un drôle de mot qui a fait son apparition dans l'actualité autrichienne. Leitkultur, qui pourrait se traduire par culture dominante. Le gouvernement chrétien-démocrate a annoncé une commission qui doit déterminer ce qu'est la culture autrichienne. Peut-on être un bon Autrichien, même si on n'aime pas la musique des fanfares traditionnelles des villages alpins? C'est la question posée par le gouvernement et c'est embarrassant, Céline Béal.
C'est une question très curieuse, posée la semaine dernière par le présentateur du journal télévisé à un homme politique. Car depuis fin mars, l'Autriche s'interroge sur son identité, sur sa « Leitkultur ». On trouve parfois comme traduction « culture dominante », mais c'est un peu plus que cela. C'est la culture qui doit dominer, comme une ligne directrice culturelle. À l'origine, on doit le concept à un sociologue germano-syrien. En 1998, Bassam Tibi la définissait comme un ensemble de valeurs d'inspiration occidentale et libérale autour desquelles, en Europe, différentes communautés immigrantes et autochtones pouvaient se rallier contre le communautarisme. Elle recouvre des valeurs comme la liberté ou la tolérance, par exemple.
Et aujourd'hui, Céline, comment ce mot est-il revenu sur le devant de la scène publique ?
Alors, au fil des années, le concept a été récupéré par des hommes politiques qui s'en servent pour réclamer l'assimilation des migrants aux coutumes germaniques. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre l'initiative, plutôt surprenante, qui a déclenché la polémique ici. Le chancelier autrichien, chrétien-démocrate, a chargé sa ministre de l'intégration de définir, noir sur blanc, les éléments de cette « Leitkultur ». La ministre a alors constitué un conseil d'experts qui doit lui faire des propositions. Ils doivent aussi réfléchir aux moyens de faire respecter la « Leitkultur » par les éventuels récalcitrants.
Et cette initiative a suscité beaucoup de critiques.
Oui, d'abord parce que le concept est assez fourre-tout. On parle aussi bien des fanfares de village, des fêtes du calendrier catholique, que de valeurs plus consensuelles comme l'égalité des sexes ou l'état de droit. Mais l'égalité des sexes, par exemple, est déjà sanctuarisée dans les lois du pays. Alors pourquoi vouloir faire un texte supplémentaire ? Avec les élections européennes et législatives à venir, beaucoup se demandent si le gouvernement ne ferait pas surtout de l'électoralisme sur le dos des migrants.
Et il y a pourtant des experts qui considèrent que la question se pose et ont accepté de faire partie du conseil créé par la ministre.
Oui, l'un d'entre eux était le sociologue respecté Kenan Günger, d'origine turco-allemande.
Parce que nous vivons dans un monde globalisé et incroyablement dynamique. La population de la campagne et celle de la ville vivent déjà dans des milieux très différents. Et ensuite vient s'y ajouter la migration. La question de savoir qui nous sommes, nous tous ensemble, se pose. Trouvons-nous des valeurs communes qui reflèteraient aussi la pluralité de ce pays ?
Seulement voilà, Kenan Günger a constaté que le parti chrétien-démocrate a utilisé ce conseil d'experts nouvellement formés comme prétexte à une série d'affiches électorales.
Je les trouve inacceptables, parce qu'elles divisent la société. Le slogan était « la tradition plutôt que le multiculturalisme », alors que cela devrait être « tradition et multiculturalisme », si on y réfléchit. Cela allait vraiment dans la mauvaise direction.
Au final, après seulement une réunion avec les autres experts, il a claqué la porte du Conseil. La sortie de Kenan Günger du Conseil des experts voulue par le gouvernement est sans aucun doute un revers pour les chrétiens démocrates. Sous pression face à une extrême droite qui caracole en tête des sondages depuis des mois, le parti du chancelier essaye de reprendre le thème identitaire à son compte.
Merci Céline Béal, à Vienne, à très bientôt. Accent d'Europe était réalisé par David Brockway. Retrouvez-nous sur notre site, sur l'application Pure Radio, à la rubrique podcast. À demain.